Commençons par une petite devinette. Chaque dimanche, plus d'un milliard de personnes récitent mon nom, sans forcément bien me connaître. Je n'étais qu'un obscur fonctionnaire d'une lointaine province agitée de l'Empire romain. Et on n'a retrouvé de moi qu'une inscription sur une pierre, à Césarée, en Palestine, avec le nom de mon maître, l'empereur Tibère. Je pense qu'il y en a qui le savent, Ponce Pilate. Alors, rien à voir avec l'activité physique d'assouplissement articulaire du même nom. Je parlais ici de ce personnage historique, très célèbre, et dont pourtant on ne connaît quasiment rien. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec ce jour où nous entrons dans l'Avent, qui va nous permettre de cheminer jusqu'à Noël? Eh bien, le rapport, c'est que, en nous préparant à cette fête de Noël, on se prépare en réalité à trois avènements. Voilà, je rappelle au passage que le mot « avance » veut dire « avènement ». Alors le premier est passé, c'est la venue de Jésus, dans notre chair et dans notre histoire, que nous célébrons à Noël. L'autre, le deuxième, est présent, actuel. C'est la venue de Jésus dans notre vie, et particulièrement à chaque messe, dans l'Eucharistie. Et le troisième est futur. C'est la venue en gloire du Christ, notre Sauveur, lorsque la grande histoire s'achèvera, et c'est ce dont parle Jésus aujourd'hui dans notre Évangile. Or, dans notre profession de foi, puisque nous sommes toujours à la découverte du credo, lorsque nous voulons insister sur la venue du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, dans notre chair, nous mentionnons cet obscur Ponce Pilate. C'est le seul personnage historique qui apparaît dans notre profession de foi, avec cette phrase « Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau ». Je ne sais pas si chacun de nous s'est déjà posé la question de sa présence dans le credo. Quel rapport a-t-il avec notre foi? Et puis finalement, que savons-nous de lui? Je disais qu'on ne connaissait pas grand-chose, et de fait, avant qu'il ne devienne le gouverneur de la Judée, on n'a rien sur lui. Donc il apparaît vraiment dans l'histoire à ce moment-là. Il réside dans cette ville de Césarée de Philippe, sur le bord de la mer, loin de Jérusalem et de sa foule turbulente. Et il va rester 11 ans à ce poste. Pour l'époque, c'est pas mal. Ça montre qu'il avait des soutiens auprès de l'empereur. Mais Ponce Pilate va se faire remarquer par beaucoup de cynisme et une grande violence. Voilà, il va pas hésiter régulièrement à provoquer le peuple juif. Alors, quelques petites anecdotes. À un moment donné, il va afficher des boucliers d'or avec l'effigie de l'empereur dans tout Jérusalem pour provoquer les juifs qui ne supportaient pas le culte des images, des idoles. Et bien sûr, ça va créer des remous. Une autre fois, il donne à l'ordre de massacrer à coups de gourdin des manifestants juifs qui protestaient contre le détournement de l'argent du temple pour construire un aqueduc. Et puis on a une autre répression assez sanglante de Samaritains dont parle Jésus dans un autre passage des Évangiles. Bref, ce n'est pas un ange gardien. Si bien que d'ailleurs son supérieur hiérarchique va essayer de le dénoncer à Rome. Il va y échapper pendant un temps et finalement il sera exilé en Gaule, chez nous, vous voyez, c'est curieux. Et même pas très loin de chez nous, à Vienne, où il va disparaître là encore de l'histoire et on ne retient de lui finalement que le nom d'une montagne, pas très loin d'ici, le mont Pilat. Voilà, ça vient de Ponce Pilate. Vous aurez quelque chose à raconter ce soir au dîner. Alors, pourquoi le mentionner dans notre profession de foi? Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas un saint. Eh bien, tout simplement parce que notre foi en l'incarnation, la venue dans notre chair du Fils de Dieu, que l'on célèbre à Noël, se fonde sur des événements bien précis, historiques, avérés, et qui se sont déroulés dans un certain secteur de notre planète, sous Ponce Pilate, et non pas sous Pompidou, par exemple. Alors ça peut paraître aujourd'hui un peu superficiel, c'est vrai, une époque où l'historicité de Jésus est communément admise, souvent on parle de ces émissions secrets d'histoire, il y en a eu deux sur Jésus, donc parlons de l'historicité de Jésus donc, mais ça n'a pas toujours été si facile à toutes les époques de notre histoire. Il y a même une longue période où on a mis beaucoup en doute l'historicité de Jésus. Et voyez, si on n'avait pas pu s'appuyer sur un événement, sur un personnage qui a marqué l'histoire, qui a laissé une trace dans l'histoire, même infime, eh bien on aurait pu facilement glisser dans le mythe, dans la légende, dans une idéologie ou une philosophie, et Jésus se serait évaporé. Au contraire, en citant, en nommant Ponce Pilate, eh bien nous continuons d'affirmer avec force que notre foi concerne une personne vivante, Jésus-Christ, voilà, qui s'est réellement rendu présent dans notre histoire par son incarnation que nous allons fêter le jour de Noël. C'est vraiment l'entrée de Dieu dans notre histoire, dans le temps. Et rien que cette phrase, ça paraît simple à dire comme ça, mais c'est extraordinaire, c'est un mystère immense. Si on se plonge dedans, on est tout petit devant ce mystère de Dieu qui se rend présent dans notre histoire. Alors je vous parlais de trois événements, c'est le premier, et ça inaugure ce mouvement qui nous est proposé de vivre durant le temps de l'Avent, justement, pour nous préparer aux deux autres événements, préparer notre cœur à accueillir le Christ de deux autres manières, je le disais, dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre cœur, et particulièrement dans l'Eucharistie. Et c'est pour ça qu'on a cette habitude à mettre en place dans notre vie de venir régulièrement le recevoir chaque dimanche, soit en communion, soit, si l'on ne peut pas, en recevant sa bénédiction. Et puis, autre attente, celle de sa venue dans la gloire, à la fin des temps, lorsqu'il viendra conclure l'histoire. Et Jésus, c'est ce dont je parle particulièrement, Jésus, dans cet évangile. Et il nous invite à rentrer dans cette même disposition qu'avaient les anciens avant la venue du Messie, qu'on entend dans la lecture du prophète Jérémie, qui annonce un germe dans la maison de David, cette attente du Messie. Eh bien, nous sommes invités à calquer cette même attente avec fièvre, ardeur, de ce retour dans la gloire du Christ. Ça peut nous inquiéter. Très souvent, quand on parle de fin du monde, ça nous inquiète. Voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et puis surtout, Jésus, quand il raconte, il donne un peu des détails, les signes dans le ciel, les nations seront affolées, fracas de la mer et des flots. Bon, on a l'impression de se retrouver dans un film d'Hollywood. Mais en fait, ça ne nous concerne pas, tout ça. Vous voyez, quand il dit ça, Jésus, il parle des nations de la terre, ceux qui finalement refusent de connaître et d'accueillir le Christ dans leur vie. Alors oui, eux, ils seront surpris par tout ça. Mais si on lit bien le texte, ce qu'il nous dit, si on écoute bien ce qu'il nous dit dans sa parole, il nous dit si nous, ceux qui ont choisi de suivre le Christ comme on peut, du mieux que nous pouvons, eh bien nous ne serons pas surpris. Et oui, il le dit texto, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête car votre salut approche. Vous voyez, pour nous, ça ne doit pas nous inquiéter, au contraire, ça doit nous réjouir. Eh bien, chers frères et sœurs, c'est cette attente joyeuse dans laquelle nous devons entrer dans ce temps de l'Avent pour renouveler cette préparation aux trois événements, faire mémoire du premier, moment important, capital dans notre histoire, dans notre vie, le second événement, cette venue du Christ tous les jours, et puis de bien préparer son cœur, notamment à le recevoir dans l'Eucharistie, et puis, voilà, cette attente finale du retour dans la gloire que nous proclamons chaque dimanche. Alors, chers frères et sœurs, tout cela peut paraître bien théorique, mais je vous invite là maintenant, dans cette messe, justement, à nous préparer avec une ardeur, j'ai envie de dire renouvelée, un désir nouveau d'exprimer profondément dans notre cœur, durant le temps de silence qui va suivre, d'exprimer notre désir de recevoir le Christ là, aujourd'hui, dans l'Eucharistie. Voilà, je vous invite à fermer les yeux, à faire silence et dans votre cœur, à exprimer par une prière ce désir fort de recevoir le Christ dans votre vie, par la communion, et si l'on ne peut pas, par sa bénédiction, par sa présence à nos côtés, parce qu'il ne nous abandonne jamais. Amen.